Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Patrick Saporito, donc de l'église baptiste de Toulouse Métropole. Vous avez certainement entendu parler de trois pratiques religieuses qu'on trouve aussi bien chez les juifs que chez les musulmans, dans les cinq piliers de l'islam, que chez les chrétiens. Il s'agit de l'aumône, la prière et le jeûne. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les religions se valent? Non. Notre texte biblique d'aujourd'hui met en évidence que le plus important n'est pas tant la pratique elle-même que le cœur qui motive ces pratiques. Ce texte se trouve dans le sermon sur la montagne donné par Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 1 à 18. Je lirai donc. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Jusqu'ici donc la parole de Dieu. Jésus ici condamne très clairement la religiosité, un certain formalisme religieux de pratiquer une religion pour être vu des hommes, ou par tradition. Il condamne très clairement l'hypocrisie dans ces trois pratiques. Le mot hypocrite, répété trois fois dans les versets 2, 5 et 16, peut se traduire par acteur, joueur de théâtre, celui qui dissimule, ou encore un prétendant. L'aumône, la première de ces pratiques citées dans le texte, laisse à penser à première lecture qu'il y a d'un côté ce qui mendie et de l'autre ce qui donne. Mais en lisant la suite du texte, on se rend compte que nous sommes tous des mendiants, d'une manière ou d'une autre. Vous me direz, mais moi je n'ai jamais demandé d'argent à personne. D'accord, mais il existe différentes façons de mendier. En quoi sommes-nous tous des mendiants? Eh bien, nous allons voir qu'il existe deux catégories de mendiants. Premièrement, les mendiants devant les hommes incapables de donner. Et deuxièmement, les mendiants devant Dieu qui nous rend capables de donner. Alors, voyons premièrement les mendiants devant les hommes incapables de donner. La première pratique dont parle Jésus dans notre texte est l'aumône. De tout temps, la mendicité a existé. On entend par mendiant des gens très pauvres qui demandent l'aumône aux passants pour avoir de quoi manger, sans pouvoir leur rendre en retour à cause de leur pauvreté. On peut donner à un mendiant pour le motif de se glorifier soi-même, attitude que condamne Jésus. Imaginez la scène du verset 2. Quelqu'un qui sonne de la trompette dans la rue et dans le temple pour attirer les regards. L'inventeur et homme politique américain Benjamin Franklin a dit ceci, je cite, « L'orgueil est un mendiant qui crie aussi haut que le besoin », fin de citation. Alors oui, ces donateurs-là sont aussi des mendiants. Ils recherchent la gloire des hommes, ils mendient leur flatterie pour être vus, admirés, reconnus d'eux. Et Jésus dit qu'ils reçoivent leur récompense. Ils veulent se faire remarquer, eh bien c'est gagné. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, l'admiration de ceux qui ne font qu'entretenir leur vanité. Mais tous ne sont pas dupes. Et ils passent aux yeux des autres pour ce qu'ils sont vraiment et savent ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hypocrites. Voilà leur récompense. La seconde pratique religieuse dont Jésus parle est la prière, au verset 5. À cette époque, la prière des Juifs se faisait à heure fixe. Alors certains s'arrangeaient pour être dans la rue à ce moment-là, afin que tout le monde puisse les voir et admirer leur religiosité. Voilà encore une autre forme de mendicité. Ces religieux mendiaient l'admiration des hommes. Là, ce qui est choquant, c'est que la prière, qui devrait être avant tout une conversation avec Dieu, peut être détournée de façon pernicieuse pour devenir une prière faite en réalité aux hommes. Quelqu'un a dit, je cite, « Quand on parle à Dieu, on ne doit pas s'adresser aux hommes, sinon la prière ne monte pas plus haut que le plafond. » Fin de citation. Ces hommes reçoivent leur récompense dans l'estime et l'admiration des hommes qui ont répondu à leur prière hypocrite. Dieu, lui, ne récompense pas l'hypocrisie, mais il la punit. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, 13 à 23, on trouve cette répétition « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Fin de citation. La prière que Jésus préconise est celle faite dans le secret de notre chambre. Et il emploie le « tu » au lieu du « vous ». C'est une exhortation personnelle que Dieu adresse à chacun de nous. Personne ne nous voit, sauf Dieu. Et là aussi, eh bien, nous devons reconnaître que nous sommes des mendiants. Pas aux hommes cette fois, mais à Dieu. Nous n'avons rien à lui apporter, à part notre adoration et nos besoins, et ce qu'il nous a déjà donné. J'aborde là mon deuxième point, être mendiant devant Dieu qui nous rend capables de donner. Jésus nous donne un manuel d'instruction concernant la prière, pour prier de la bonne manière, à la fois avec notre cœur et selon sa parole. Verset 7, je cite, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Fin de citation. Ici, Jésus dit de ne pas répéter les mêmes paroles machinalement. Et pour bien nous le faire comprendre, il répète deux fois l'injonction de ne pas répéter. C'est le même mot. « Ne multipliez pas les paroles multipliées, littéralement. » Le mot veut dire « répéter sans cesse les mêmes choses, utiliser de nombreux mots inutiles. » La multiplication de ces paroles montre bien le creux de telle prière. Et la tentation serait de faire de la prière un distributeur automatique et de croire que la réponse à la prière est fonction du nombre de mots prononcés et de la façon dont on les a prononcés, ce qui serait du marchandage venant d'une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Et ça serait décourageant pour ceux qui ne s'expriment pas bien. Je connais une dame, jeune dans la foi, qui a longtemps hésité à prier. Car en entendant d'autres prières, elle a dit « Jamais je ne prierai comme ça !» Et il a fallu lui expliquer que Dieu préfère écouter les prières sincères du cœur plutôt que les prières pour impressionner les autres qui sont de vaines redites et qui ne lui sont pas adressées réellement en fait. En matière de prière, ça ne sert à rien de se comparer ni d'imiter les hommes. Jésus dit bien, verset 8, je cite « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Fin de citation. En réalité, la prière ne vise pas à informer Dieu de ce qu'il ne sait pas, puisqu'il sait tout. Votre Père sait. Pas besoin de lui faire comprendre. Pas besoin de s'inquiéter si on n'a pas trouvé les mots parce qu'on s'exprime mal. Dieu connaît d'avance notre prière avant même qu'on l'ait prononcée. Ce qui suscite alors cette question, pourquoi prier alors? Eh bien, la réponse est au verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. » Fin de citation. Et là, Jésus donne ensuite la prière modèle du Notre Père. Un petit mot à son importance dans ce verset 9, c'est le « donc ». Voici donc comment vous devez prier. C'est justement parce que Dieu sait d'avance ce que je vais lui dire dans ma prière qu'il me demande de prier, mais selon le modèle que lui nous a donné. Jésus veut nous apprendre à prier, aux mendiants que nous sommes. Et remarquez l'impératif. Je cite « Voici donc comment vous devez prier ». Fin de citation. Alors est-ce que ça veut dire que le Notre Père, cette magnifique prière, doit être apprise par cœur et récitée machinalement comme le font certains? Jésus vient juste de dire de ne pas répéter de vaines redites. Même si c'est bon de la connaître par cœur, c'est plutôt sa construction, sa structure que Jésus nous a donnée comme modèle pour nous aider à élaborer notre propre prière dans la persévérance quotidienne. Dieu a créé l'homme à son image, pas pour regarder les automates, mais pour avoir une relation avec lui, pour que nous le connaissions et que nous nous reconnaissions dépendants de lui. Je vous invite à regarder cette prière de plus près. En prenant de la hauteur, on se rend compte que cette prière commence et termine par viser la gloire de Dieu, ce qui doit être notre première motivation pour prier. Et au milieu, eh bien, on trouve l'expression de nos besoins vitaux, qu'on compte au nombre de trois. Premièrement, nos besoins corporels, comme manger. Deuxièmement, notre besoin d'être pardonné et de pardonner. Et troisièmement, notre besoin d'être délivré du mal et de la tentation. Sommes-nous convaincus des effets de cette prière sur nous, sur le monde et sur Dieu? Si oui, nous prierons davantage. Cette prière commence par, verset 9, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Fin de citation. Jésus emploie 10 fois le mot « Père » dans ses versets 1 à 18. C'était révolutionnaire à l'époque d'appeler Dieu « Père » en priant. Et qui d'autre que Jésus pouvait nous apprendre à prier Dieu comme à un Père puisqu'il est son Fils? Il s'agit donc d'avoir une communication intime avec Dieu. Le « Notre Père » emploie le « Nous » et me rappelle que mon Dieu est aussi ton Dieu, que tu peux appeler « Père » si tu crois en Jésus son Fils. Et me rappelle que mes besoins sont aussi tes besoins. Et si vous priez pour les autres, eh bien les autres prieront pour vous. Dieu sait déjà nos besoins, et il nous invite d'abord à regarder à lui en tout premier, pour nous rappeler qu'il est au ciel, au-dessus de tout, et nous sur terre. Donc pas de raison de s'inquiéter. Il contrôle tout, même le Covid. Cette prière ne dit pas « Dieu, tu es saint », mais demande que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, c'est l'expression de son essence, de son être, tel qu'il s'est révélé à nous dans sa parole. Et notre premier désir, d'après cette prière, devrait être que Dieu soit reconnu et adoré pour ce qu'il est, c'est-à-dire saint, saint, saint. La sainteté de Dieu est le seul attribut de Dieu qu'on trouve répété 3 fois dans la Bible, en Ésaïe 6, verset 3 et en Apocalypse 4, verset 8. Vous ne trouverez pas « juste, juste, juste », bien que Dieu soit juste, ou « amour, amour, amour », bien que Dieu soit amour. Mais vous trouverez l'expression « Saint, Saint, Saint est le Seigneur » dans la Bible. Dieu est saint, il est séparé du mal, et dans ce sens, il est différent de nous. Le verset 10, je cite, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Fin de citation. Prions pour le jour où le Seigneur viendra établir son règne. Et un bon diagnostic de notre état spirituel est de nous demander si nous désirons ce jour, où sa volonté sera acceptée dans le monde entier. Mais déjà, il nous faut accepter qu'il règne sur notre cœur. Comment trouver la volonté de Dieu? Eh bien, elle est dans sa parole révélée, la Bible. La volonté de Dieu est que les gens se repentent, mettent leur confiance en Jésus-Christ et aient une vie transformée par lui. Et quand nous ne sommes pas sûrs si ce que nous demandons est la volonté de Dieu, quant au choix d'un travail ou d'un conjoint par exemple, eh bien nous pouvons rajouter dans notre prière « Accorde-le-nous seulement si c'est ta volonté, si cela contribuera à ta gloire, si cela me permettra de mieux te servir. » Chercher la volonté de Dieu est une bonne raison de lire quotidiennement sa parole pour la connaître. Ainsi, nous pouvons aussi prier et citer la Bible dans nos prières. Verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Fin de citation. Après avoir mis les intérêts de Dieu à la bonne place dans notre cœur, c'est-à-dire à la première, nous pouvons exposer à Dieu nos propres besoins, comme notre besoin vital de manger. Demander notre pain à Dieu, c'est lui demander un travail pour subvenir aux besoins de nos familles. Et regardez l'insistance dans les mots « aujourd'hui » et « quotidien ». Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette prière peut être faite tous les jours. C'est aussi lui demander de nous nourrir spirituellement par sa parole. Autre bonne raison de lire la Bible, quotidiennement. Autant nous avons besoin de pain quotidiennement, eh bien la parole de Dieu est une nourriture vitale dont il nous faut aussi nous nourrir chaque jour. Et de prier « donne-nous notre pain quotidien » nous apprend aussi à avoir compassion pour le pauvre. Et nous interpelle sur ce que nous pouvons faire pour les pauvres. Verset 12, je cite, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Fin de citation. Là encore, c'est chaque jour que nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Mais Dieu ne nous pardonne pas en fonction du nombre de fois que nous lui avons demandé pardon, ni parce qu'on a beaucoup pardonné. Dieu nous pardonne uniquement par la foi dans l'œuvre de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nous racheter de nos péchés. alors il nous devient possible de pardonner aux autres si nous avons nous-mêmes accepté le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Comment un chrétien qui ne pardonne pas à son prochain peut-il prétendre qu'il est pardonné par Dieu? D'autant plus si son prochain est chrétien, à qui Dieu a déjà pardonné ses offenses. Et d'autant plus si nous prions « pardonne-nous nos offenses ». Et remarquez l'emphase, je cite « comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Fin de citation. Vous avez remarqué, il ne s'agit pas d'une requête « fais que je pardonne », mais d'une affirmation que nous disons à Dieu « je pardonne, même si le cœur n'y est pas, parce que tu me le demandes ». La guérison et la disposition de cœur suivront après. Verset 13 ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Fin de citation. Certaines versions disent ne nous laisse pas entrer en tentation. Soyons clairs que Dieu ne tente lui-même personne, selon Jacques chapitre 1 verset 13. Mais il permet l'épreuve, la tentation, en nous promettant qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, selon 1er épître de Paul aux Corinthiens chapitre 10 verset 13. Et là encore, c'est chaque jour que nous avons besoin d'être délivrés du mal. Et cette prière se termine magnifiquement, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La boucle est bouclée. Nous pouvons rendre chaque jour grâce et gloire à Dieu, parce que Dieu répondra certainement à cette prière qu'il nous demande lui-même de lui formuler et qu'il nous a apprise par son Fils. Quel encouragement. Et enfin, la troisième pratique religieuse dont Jésus parle est le jeûne, au verset 16. Le jeûne, c'est se priver de notre pain quotidien pour se nourrir de Dieu finalement, dans une attitude d'humiliation. Reconnaître notre dépendance, non pas du pain, mais de celui qui nous donne le pain. Et Jésus n'en a pas fait une loi. Il le considère surtout comme un acte personnel, volontaire et secret qu'il recommande, avec la prière, pour recevoir la puissance divine. Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère. Soyons clairs, ce n'est pas l'aumône, ni la prière, ni le jeûne qui nous enlève nos péchés, mais seulement le sang de Jésus-Christ versé pour nous. Ces pratiques, même si elles sont bonnes, ne doivent pas servir de monnaie d'échange, parce que ça représenterait quelques centimes face à ce que Dieu nous a déjà donné par grâce, c'est-à-dire ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, Jésus-Christ. Épître de Paul aux Romains, chapitre 11, verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Fin de citation. Dans mes jeunes années chrétiennes, j'avais visité un ami missionnaire au Sénégal. Et là-bas, on croisait des mendiants à presque tous les coins de rue, dont certains étaient même estropiés. Et je me disais, mais on ne peut pas donner à tout le monde ! Mais j'ai vu comment mon ami missionnaire donnait quand quelqu'un le sollicitait, et ça m'a marqué. Il accompagnait son don par ses paroles « Au nom de Jésus ». Parce que toute la gloire devait revenir à Jésus, et aussi pour témoigner de Jésus-Christ à ces personnes. C'est parce que Dieu nous a donné le premier qu'à notre tour nous pouvons donner. Donner aux pauvres, non seulement de l'argent mais du temps. Aussi donner le pardon. Tout cela dans une attitude d'amour et de reconnaissance, pas juste pour soulager nos consciences. Et il y aura des récompenses. Alors, le salut, il est accordé gratuitement à quiconque croit en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et ses repentis. Et en plus, il y aura des récompenses. À chaque œuvre faite en son nom, Dieu a promis, je cite, « Dieu te le rendra », versets 3, 6 et 18 de notre texte. C'est un cercle vertueux. On reçoit, on donne, on demande. On reçoit, on donne, on demande. Alors, quelles sont ces récompenses, déjà ici sur terre ? Eh bien, remontons un peu plus haut dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, verset 16, où Jésus a dit, je cite, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Fin de citation. Est-ce qu'il y a contradiction avec notre passage quand Jésus dit de ne pas montrer aux hommes nos bonnes œuvres ? Alors, être vu ou ne pas être vu, telle est la question. La réponse se trouve au verset 3 de notre texte. Je cite, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Fin de citation. Ceux qui donnent vont de toute manière être vus des hommes. Mais ceux qui donnent par amour pour Dieu ne se voient pas toujours eux-mêmes comme ils paraissent, contrairement aux hypocrites. Ils ne se rendent pas compte qu'ils rayonnent de la vie de Dieu en eux. Leur lumière, non pas la leur propre, mais celle de Dieu, brille devant les hommes quand ils le font avec un cœur pour Dieu. Et pour la prière, là aussi, quand on passe du temps seul avec Dieu, ça va se voir, et on ne s'en rend même pas compte. En témoigne Moïse, dont le visage rayonnait après sa conversation seule avec le Seigneur sur le mont Sinaï. Je cite Exode 34, deuxième partie du verset 29. « Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Fin de citation. Voilà nos récompenses, de refléter la lumière de Christ sur terre, en attendant celles qui viendront au ciel.